RFI. Il est 10h à Paris, 8h en temps universel. Merci d'écouter RFI. Bonjour, bienvenue. Dans 10 minutes, vos questions sur l'actualité et dans 40 minutes, vos réactions sur l'alliance des États du Sahel, Mali, Burkina Faso, Niger. Un an après sa création, quel bilan dressez-vous? Mais d'abord le journal. Bonjour Jeanne Bartoli.
Bonjour Juan Gomez, bonjour à tous. Dans ce journal, le Mali, des coups de feu et des détonations entendues ce matin à Bamako dans au moins un camp militaire de l'armée. On retrouve notre correspondant régional en début de journal pour faire le point sur ces événements. Dans cette édition également, Donald Trump qui dénonce la rhétorique de la gauche communiste après une nouvelle tentative d'assassinat. Le candidat républicain accuse ouvertement Joe Biden et Kamala Harris d'avoir inspiré le suspect formellement mis en examen hier. Et puis vous entendrez dans ce journal la colère d'Antonio Guterres devant la lenteur de la réaction de la communauté internationale à propos de la crise sécuritaire en Haïti. Des coups de feu et des détonations entendues ce matin à Bamako. Les événements se sont produits dans au moins un camp militaire de l'armée dans la capitale malienne. On retrouve tout de suite notre correspondant régional, Serge Daniel. Serge, quelle est la situation à l'heure où l'on parle ?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que des hommes lourdement armés ont attaqué tôt ce matin au moins un camp, comme vous l'avez dit, de gendarmerie de Bamako, situé non loin de l'aéroport. Alors, une source militaire malienne confirme l'information sans autre précision. La situation au moment où je vous parle est plutôt confuse parce que des témoins ont vu, il n'y a pas longtemps encore, une grosse fumée au-dessus du camp. Coup de feu également, cette fois-ci, non loin d'un poste de sécurité dans la même zone, vers l'aéroport de Bamako, vers la sortie de National 7. D'après nos informations, des civils qui se dirigeaient à l'aéroport, ils voulaient voyager, ont été stoppés par des hommes armés qui leur ont intimé l'ordre de retourner. On ne sait pas si l'aéroport est fermé momentanément ou pas. En tout cas, il y a là aussi des interrogations. Autre information, c'est une source très bien informée qui s'interroge, je cite, « Les assaillants n'ont-ils pas aussi voulu atteindre la plateforme de drones situés dans la zone non loin de l'aéroport de Bamako ?» C'est une question. Deux autres informations, des gendarmes sans armes ont été aperçus quittant précipitamment le secteur. Et enfin, dans un communiqué officiel, le lycée français de Bamako a annoncé fermer ses portes face à la situation.
Serge Daniel, correspondant régional d'RFI en direct avec nous. On suit la situation sur notre antenne. Dans le prochain journal, ce sera dans une demi-heure et sur RFI.fr. En Côte d'Ivoire à présent, le Conseil national de défense des droits de l'homme s'inquiète de la surpopulation carcérale. Cette organisation a mené une enquête en juin dernier dans 35 centres pénitentiaires du pays. Elle constate que le nombre de personnes en détention préventive est toujours aussi important. Cela représenterait près de 9800 prévenus selon un communiqué du ministère de la Justice. Parmi les pistes, le Conseil national des droits de l'homme préconise le recrutement de plus de magistrats pour instruire les dossiers judiciaires. Écoutez Maître Dianogo Makaya, directrice des requêtes et investigations au CNDH.
Le constat est que, en dépit des mesures prises, du passage en revue du code de procédure pénale, allant dans le sens de prévoir dans le code, dans le dit code, des mesures alternatives à l'incarcération, la population carcérale ne cesse d'augmenter. Alors, le CNDH, dans son rôle de conseil, demande à ce que le gouvernement revoie à la hausse l'effectif des magistrats, qui est aujourd'hui loin du ratio population magistrat. On est aujourd'hui à un magistrat pour plus de 38 000 en termes de population. Donc, du coup, ce que le magistrat pouvait faire dans les années précédentes, c'est pas évident qu'au regard des dossiers qui prennent du volume, il peut pas donner, en dépit de sa bonne volonté, il peut pas le faire. Donc cela pourrait justifier le fait que des dossiers peuvent durer en instruction, par exemple.
Maître Dianogo Makaya, propos recueillis par Binta Diagne. Aux États-Unis, la campagne continue après l'apparente tentative d'assassinat dont a été la cible Donald Trump dimanche soir. Le suspect Ryan Wesley Rouse a été formellement inculpé hier après avoir passé 12 heures en embuscade et armé près du Golfe où s'est rendu Donald Trump dimanche. Le candidat républicain et ex-président attendu cet après-midi dans le Michigan. Hier, il a mis en cause la rhétorique démocrate, affirmant que les critiques de ses adversaires avaient inspiré le suspect. À Washington, Guillaume Nodin.
Moins de 24 heures après l'incident du golfe de West Palm Beach, Donald Trump est déjà à l'offensive. Le soir même, il postait sur ses réseaux sociaux qu'il n'abandonnerait jamais ses partisans en leur fournissant accessoirement un lien pour contribuer financièrement à sa campagne. Dès ce lundi, il accusait la rhétorique de celle qu'il appelle camarade Kamala Harris d'être à l'origine de ce que les autorités judiciaires traitent comme une deuxième tentative d'assassinat en deux mois. À cause de cette rhétorique de la gauche communiste, les balles volent et la situation ne fera qu'empirer, explique-t-il notamment. Il dénonce les mensonges, les fausses déclarations et le débat télévisé orienté, ainsi que les poursuites judiciaires conçues selon lui pour lui nuire et qui ont conduit le pays à des niveaux de haine et de méfiance inédits. Cela ne l'a pas empêché d'avoir finalement eu une conversation apparemment cordiale avec Joe Biden, qui lui a dit son soulagement qu'il soit sain et sauf. Le soir même, le président, comme Kamala Harris, disait que la violence n'a pas sa place dans la politique aux États-Unis. Il l'a redit ce lundi en expliquant que le Secret Service, chargé de protéger les personnalités, a besoin de moyens supplémentaires pour protéger les deux candidats, désormais obligés de prononcer leur discours en extérieur derrière des vitres blindées. Guillaume Lodin, Washington. RFI.
RFI, 10h passées de 6 minutes, on en vient à la colère d'Antonio Guterres devant la lenteur de la réaction de la communauté internationale à propos de la crise en Haïti. Le patron de l'ONU dénonce le manque de contributions pour financer la mission multinationale menée par le Kenya, mission pour aider la police haïtienne dépassée par la violence des gangs. Seuls 6 pays ont contribué financièrement parmi les 193 pays membres de l'ONU. À New York, Karine Auton.
La contribution du Canada s'élève à 45 millions de dollars en liquide pour la MMAS en Haïti, celle des États-Unis à 15, de la France ou de l'Espagne à 3, l'Italie a versé 360 000 dollars et la Turquie 50 000. D'autres aides en matériel ou en formation ont été aussi fournies, mais avec uniquement 68 millions de dollars, il sera impossible de financer la force correctement. Dans un entretien exclusif à l'agence France Presse, le patron de l'ONU a trouvé cela totalement inacceptable, Antonio Guterres.
Whenever there is a war, money is always available.
Quand il y a une guerre, on trouve toujours de l'argent. Quand il y a une crise financière et que des banques doivent être sauvées, on trouve toujours de l'argent. Quand un peuple souffre dans une situation si désespérée et qu'on a besoin que d'une somme relativement faible d'argent pour mettre en place une petite force en Haïti, il est totalement inacceptable que cet argent ne soit pas disponible.
Le mandat de la MMAS doit être renouvelé pour un an avant la fin du mois et les États-Unis estiment que dans ces conditions, seul un financement dans le cadre onusien serait pérenne. C'est l'une des raisons qui les pousse à demander au Conseil de sécurité de réfléchir à transformer la MMAS en opération de la paix sous l'égide de l'ONU. Karine Auton, New York, RFI.
En France à présent, le principal accusé dans l'affaire des viols de Mazan, Dominique Pellicot, de retour ce matin devant la cour criminelle du Vaucluse. Il est accusé d'avoir drogué sa femme pour la violer et la faire violer par des dizaines d'hommes. « Je suis un violeur, comme ceux qui sont dans cette salle. Ils savaient tous. Ils ne peuvent pas dire le contraire », a assuré ce matin Dominique Pellicot, faisant allusion aux 50 co-accusés de ce procès. Enfin, malgré l'incertitude politique qui règne en France, les Jeux Olympiques ou encore le coût de la vie, eh bien les Français voyagent toujours. C'est ce que confirme le bilan estival du CETO, le syndicat des entreprises du tour operating. Et comme chaque année, les touristes ont voulu voir la mer, Gali Bonin.
Indétrônable, la Méditerranée reste le terrain de jeu de prédilection des Français. On y retrouve 9 des 10 premières destinations de voyage organisées cet été. Une région progresse plus que les autres, la botte italienne, avec 30% de voyageurs supplémentaires. Hervé Timon, directeur général du CETO.
Avec cette incertitude politique, l'Italie présentait un caractère de facilité. Je crois qu'aujourd'hui, les clients, effectivement, ils ne peuvent pas se permettre de louper leurs vacances et de faire en sorte que le budget consacré à leurs vacances soit altéré et donc effectivement ils font principalement le choix de la sécurité.
Les pays du Maghreb restent parmi les préférés des touristes, mais si vous êtes en Tunisie, vous avez sûrement remarqué moins de Français sur vos plages. Destination numéro 1 de l'été 2023, le pays a perdu 10% de fréquentation. René-Marc Chicli, président du syndicat des voyagistes.
Les destinations comme la Tunisie, qui sont des destinations d'entrée de gamme, ont visiblement subi un peu les restrictions budgétaires de la part des Français, qui se disaient... Bon, je je pars pas cette année, je partirai peut-être l'année prochaine ou quoi que ce soit. Ça a eu un impact sur une partie du Maroc, pas totalement, puisque le Maroc s'en sort pas mal du tout. C'est au même niveau pratiquement que 2023 qui était une excellente année.
Cet été, plus d'un million et demi de Français ont utilisé des services de voyage organisés pour leurs vacances.
Gali, Bonin, il est 10h10 ici à Paris et tout de suite vous retrouvez Juan Gomez.
Avec les auditeurs de RFI, très bonne journée. Jeanne Bartoli, reste avec nous. Dans 30 secondes, RFI vous donne la parole comme tous les matins pour